We have always been at the top, and you know, it's difficult to lead the race for the whole championship, and not to lose a game is absolutely amazing.
People will remember that the season 2003-2004, we were unbeatable.
But we went through the season unbeaten, and that's just fantastic. And I think this team will be remembered forever now.
Podcast qui revient sur le football de notre enfance.
À la veille de son quart de finale de la Ligue des Champions, Arsenal montre un formidable état de forme. Depuis le 10 janvier 2004, les Gunners sont sur une série de 9 victoires consécutives en championnat. À l'image de Thierry Henry, qui a marqué 9 buts sur cette même période, les hommes d'Arsène Wenger semblent inarrêtables. S'ajoutent, sur ce même laps de temps, 3 victoires en FA Cup, dont 2 très larges, et une double victoire aller-retour contre le Celta Vigo. La nouvelle année 2004 est particulièrement intense pour les hommes de Wenger. Ils apparaissent plus que préparés à affronter l'accumulation des matchs. Au-delà de maintenir une quasi-invincibilité sur tous les fronts, Arsenal possède un esprit conquérant très impressionnant avant d'aller à Stamford Bridge pour le quart de finale aller de la Ligue des Champions, Gilles Christ.
Ah ben clairement, c'est vrai que là il y a le plein de confiance est fait justement donc dans cette période voilà qui a été évoquée dans l'épisode précédent. La question se pose hein, et j'allais dire dans notre prisme de Français qui subissons téléfoot et on aura l'occasion d'en parler dans d'autres épisodes. Ben on se dit voilà qui va pouvoir arrêter Arsenal. On commence à se prendre à rêver donc d'un printemps européen. Qui pourrait le mettre aux prises au galactique du Real Madrid. Le titre, on va dire, commence aussi à ouvrir certains horizons et après même à gagner, les compétitions domestiques. Alors autant sur la Coupe de la Ligue, on va pas en vouloir Arsenal de ne pas se positionner comme un potentiel vainqueur, puisque la Carling Cup de l'époque n'est pas forcément donc une priorité pour les gros clubs, mais sur la FA Cup. Où Arsenal est le double tenant du titre. Ils sont toujours en course. En championnat, ils sont en course. En Ligue des Champions, ils sont en course. Les voyants sont au vert. Et on se dit vraiment que Arsenal est dans des dispositions pour pouvoir faire une saison mythique. Mais donc c'est vrai que quand tu as, on va dire, 9 points d'avance. Après 27 journées de championnat, ben tu te dis que voilà quoi, c'est le moment de faire un bilan qui est assez clair et que maintenant, quand on va rentrer progressivement dans cette période printanière, c'est là que des différences doivent se faire.
Honnêtement, à la veille de ce match-là, Damas, est-ce que tu partages ce que moi je peux ressentir ? Personne ne peut les battre.
Personne ne peut les battre, oui, je peux le penser objectivement, mais subjectivement, j'espère vraiment qu'ils puissent perdre.
Ah oui, on espère.
Ça, c'est... Oh là là, c'est... Wow. Oh je n'aime pas Arsenal, mais nous ne sommes plus des enfants aujourd'hui. Ah, c'est un truc de ouf, frère. Eh, ils gagnaient trop sur la période de janvier jusqu'au mois de mars. Arsenal, et notamment Thierry Henry, sont irrésistibles, avec des victoires d'une violence. Et pas forcément au niveau du score, mais c'est même de l'écart avec les équipes adverses. Alors le Celta Vigo va faire quand même bonne figure en Ligue des Champions, c'est réel, mais nous savons que le Celta lutte déjà en Liga pour pouvoir ne pas descendre en Segunda Division. Donc Arsenal devait passer, et ils l'ont fait, mais c'est surtout en Première Ligue où il y a vraiment des victoires qui sont probantes, qu'on peut quand même signaler. Déjà en Cup, ils vont battre à nouveau Chelsea. Une équipe qui bat régulièrement déjà, mais ce qui est important, c'est que au cours de cette rencontre-là, il y a un joueur qui va clairement en effet se mettre en évidence, c'est José Antonio Reyes qui est arrivé en janvier et qui met un doublé dans ce derby londonien. Donc ça, ce sont des choses qui marquent hein, de suite bah, d'imposer ton nom déjà de un dans l'environnement dit Gunners, du fait que toi maintenant bah, tu battes l'ennemi londonien appelé Chelsea. Et concernant ces victoires probantes. au cours de cette période, bah, déjà de 1, il y a cette victoire à l'extérieur, encore une fois, à Chelsea. Une victoire très tôt, hein, auquel Arsenal va s'imposer, bien que Gudjonsson ouvre le score. Mais t'as Vieira et Edu qui vont mettre un doublé. Ensuite, t'as des matchs dans les bourgs anglais, comme moi je les appelle, à Blackburn, Bolton, la banlieue de Manchester, Southampton, qui ressemble un petit peu à Brest, à notre Brest français. Donc, avec tout ça, on s'aperçoit que Arsenal arrive clairement à s'en sortir et surtout à gagner et à continuer à gagner. Donc nous, dans notre prisme français, on est pris dans l'effervescence des médias français via le pouvoir que génère Arsenal en Première Ligue. Donc maintenant, on connaît aussi, bien entendu, cette période printanière où il va falloir faire la différence et on va de suite être mis en évidence avec une première confrontation face au champion en titre, qui n'aurait pas dû être champion d'ailleurs au cours de l'année 2003, c'est Manchester United.
Arsenal qui a déjà joué 3 fois contre Chelsea cette saison, tu le disais Damas, 2 fois en championnat et 1 fois en FA Cup. Les Gunners sont à chaque fois gagnés. Ils vont forcément répéter la performance en Ligue des Champions, Nams.
Oui, ils sont censés, c'est ce qu'on pense. Ils sont censés réitérer cette performance. Moi, pour moi, Arsenal n'allait faire pas qu'une bouchée de Chelsea, mais quand même, allait faire preuve d'un... ils allaient tenir leur rang. Donc, Chelsea aussi avait ses armes, mais Arsenal est très très solide. À ce moment-là, un partout, moi, ce qui me marque, c'est le but de Pires qui s'impose dans un duel aérien face à John Terry, qui est un spécialiste de la discipline. C'est assez ahurissant. C'est comme si Jovinko gagnait un duel de la tête face à Boateng. C'est fou. C'est comme si je disais Zola face à Sturm. Enfin, c'est le fait de voir gagner ce duel. En plus, il était très prolifique au niveau des buts. Et très clutch, très décisif. Donc ça, c'est fou. Donc, Gudjonsson qui d'abord, je marque pour Chelsea, mais voilà, le fait qu'un partout, ça laisse les débats ouverts malgré que Arsenal ait mis ce but à l'extérieur. Ça laisse quand même une ouverture pour le match retour. Une confrontation assez palpitante. Donc, entre-temps, quand même, on va dire qu'Arsenal a quand même un calendrier assez chargé. Des matchs de prestige, des matchs très intéressants. Donc, on va voir aussi qu'une saison peut se jouer à des détails, à peu de choses. Et à certains moments, il faut montrer du caractère, surtout dans cette fin de saison. Mars, avril, il faut montrer du caractère. C'est caractère, physiquement, le travail de début de saison. C'est là où ça paye, c'est là où ça commence à payer. Savoir faire tourner son effectif, gérer les joueurs. Et c'est là aussi où les grands joueurs répondent présents.
C'est bien que tu parles de ce match face à Chelsea. Hein. Franchement, cette confrontation de ce premier tour, de ce quart de finale aller de Ligue des Champions à Stamford Bridge, messieurs, dès le début du match, on voit directement qu'Arsenal est au-dessus techniquement et même aussi psychologiquement face à cette équipe londonienne qui s'était clairement renforcée dès 2003. Franchement, là, Arsenal a la main, mais n'arrive pas à scorer. Il faut qu'on en parle.
Bien sûr qu'on va en parler, on va rester dans le détail de ce match-là, hein. Le 24 mars 2004, le match aller du quart de finale de la Ligue des Champions, ça se passe à Chelsea. Hein. J'écris juste une petite parenthèse, ouais. Est-ce que toi aussi, comme le vice-président David Dane, tu es déçu que ce soit cette affiche qui soit tirée au sort?
Ben, j'allais dire que c'est un hasard curieux, qui ressort donc de jouer encore un énième match de Première Ligue en Coupe d'Europe, quand tu sais que, par exemple, tu peux tirer Porto, que tu peux tirer Monaco, que tu peux tirer La Corogne, que tu peux tirer Lyon, par exemple, et que tu te retrouves à tirer Chelsea. Et c'est vrai que, j'allais dire, penser à jouer ce match contre une équipe sur laquelle tu as un ascendant psychologique qui est très élevé, sur la saison et même au cours des 5 dernières années, c'est très important. Mais... je ne dis pas déçu, mais bon, moi, j'allais dire que je me dis quand même que Arsenal a de grandes chances donc de passer le tour suivant au vu de l'antagonisme dont on nous rabâche les oreilles pour dire que Arsenal, ça va être très difficile quand même de les battre. Mais c'est vrai que quand tu vois le calendrier où les matchs s'accumulent et s'enchaînent et que tu vois quand même qu'il y a de la casse quand même hein, donc sur cette rencontre, parce que sur le match aller. Je note également que voilà donc il y a des blessures hein, puisque Ashley Cole va dire donc se blesse et donc du coup laisse sa place à Clichy justement donc sur le match retour et surtout aussi sur le match qui va avoir lieu donc contre Manchester aussi le week-end. Et que voilà, donc là on se rend compte que ça commence à tirer la langue. Est-ce que d'un point de vue de la fraîcheur physique, est-ce que les joueurs d'Arsenal sont tous encore tannés? Parce que t'es irrésistible, t'es inarrêtable, un moment charnière de la saison pour pouvoir avoir un certain matelas, mais pour gérer toutes ces compétitions en même temps, il faut quand même qu'il y ait de la densité. Et quand tu sais que tu sors, que t'as un effectif sur lequel qui est assez, on va dire, où tu comptes sur un nombre de joueurs qui est assez restreint pour pouvoir faire la
feuille de match.
Exactement, avec la performance. Bon, tu te poses la question de se dire que c'est jusqu'à combien de temps ça va tenir, et on commence à regarder d'un certain intérêt. Est-ce que il y aura une équipe orgueilleuse comme Manchester United, qui est un petit peu aux fraises sur le championnat, qui est capable par orgueil de battre Arsenal? Et je pense qu'ils étaient venus dans cette optique-là et dans cette idée-là, notamment dans ce match de Première Ligue.
Tout à fait.
Il y a eu 1-1 entre Chelsea et Arsenal. Tout s'est joué en deuxième mi-temps, avec Lehmann qui fait une sortie terrible qui permet à Doug Johnson de marquer ce but. Pires, comme le disait Nams, va marquer un but de la tête, formidable but, après une pénétration dans l'axe pour faire un appel d'exception. Arsenal n'a pas pu profiter de l'expulsion de Marcel Desailly en fin de match. Il a fait un tacle incroyable sur Patrick Vieira. Il n'y a pas d'amitié en Ligue des Champions. À la fin de cette rencontre, Wenger estime que son équipe est en bonne position. Et il a l'ambition de gagner à Highbury. C'est assez clair, il n'est pas du tout inquiet. Le match d'après est particulièrement attendu également, surtout qu'au match aller, l'atmosphère était particulièrement tendue. Arsenal reçoit Manchester United en Première Ligue et ça s'annonce très sérieux d'Amazon.
En effet, Manchester est touché dans son orgueil parce que Arsenal fait clairement la différence en Première Ligue, que ce soit dans les confrontations avec les grosses équipes ou voire avec les équipes mineures de Première Ligue. Arsenal est clairement devant et... je pense que psychologiquement, il était important aussi pour Arsenal de pouvoir l'emporter après avoir pu obtenir un point lors du match aller et cette scène incroyable où on a vu des joueurs d'Arsenal faire front face à Ruud van Nistelrooy, qu'on va appeler, bien entendu, dans le phénomène appelé la bataille d'Old Trafford. Tous ces éléments-là amènent à ce que Arsenal, on peut le dire, oui, était favori face à ce Manchester qui était... plutôt moribond quand même en Première Ligue. On avait rarement vu Manchester comme ça se faire bousculer face à des équipes même moyennes. Des défaites à Southampton, je crois, en début de saison. Des contre-performances même face à Bolton, le derby mancunien. Manchester n'était pas performant au cours de cette saison, sans compter l'élimination en huitième de finale de Ligue des Champions avec Manuel Da Costa, que nous on connaît bien en France, à la dernière minute, où on voit Manchester sortir en huitième de finale. Donc psychologiquement, Manchester n'est pas au mieux pour pouvoir affronter le futur champion. Et ce match-là, il y avait un point quand même qui était important. C'est que Manchester, ils sont habillés en noir. Et au tennis, on avait un très grand joueur, un joueur de légende appelé Roger Federer.
Roger, bien sûr, papa Roger.
Papa Roger, qui pour finir des mecs, s'habille en noir. Donc, c'est tout cet aspect marketing qui est là aussi. On vient vous montrer que, ok, toi, tu vas sans doute être champion, pas de souci. Mais contre nous, tu dois pas, tu peux pas venir gagner chez nous. Et nous, on doit te battre. Et on sait que Manchester avait les éléments nécessaires pour pouvoir faire front à cet Arsenal-là. En parlant de Roy Keane, bien entendu, Paul Scholes, Ryan Giggs qui est toujours là. Il y a l'absence, bien entendu, de David Beckham qui est maintenant en Espagne. Mais Manchester reste Manchester. Et ce match-là en question... Va clairement être intéressant dans la confrontation et pas forcément dans le jeu. Parce que je pense qu'Arsenal n'était pas non plus dans une forme fluorescente, bien que Thierry Henry a encore fait preuve de classe.
Deux changements importants côté Arsenal. Clichy qui remplace Ashley Cole blessé au match précédent. Et choix de coach, Reyes est titulaire à la place de Bergkamp. Reyes a le niveau, Nams ?
Oui, il a le niveau. Ce match-là, moi, je m'en souviens comme si c'était hier. Vous savez, tellement le match, il n'était pas top, je voulais switcher sur, je voulais mettre FIFA 2004. Parce que le match, il était un peu, vous savez, le match sur Sport Plus, j'étais content, belle affiche, mais le jeu, c'était pas trop ça. Mais ouais. Reyes, dès qu'il arrive, il donne satisfaction, il est présent. Et vous voyez souvent, ben, Henry, il avait mis ce but, je crois que c'est en 2000-2001, vous savez ce but où contrôle et cette volée, il se retourne.
Bien sûr, ben, Barthez.
Ben, voilà, exactement. Ben, moi, c'est ce but face à Roy Carroll, ben, ce but-là, il m'a vraiment marqué. Passe de Reyes, vous savez en plus comment il était, déjà, chaussette remontée jusqu'au haut des genoux, ouais. Mercurial, il contrôle le ballon, il est quasiment à l'arrêt, grosse frappe sous la barre.
À l'arrêt.
On peut croire que, on peut dire, alors certains diront que Roy Carroll était aux fraises.
C'est vrai.
Peut-être. Mais la frappe quand même est soudaine, sèche, pleine de puissance. Et là, je me dis, ah ouais, ils sont quasiment inarrêtables. Henry répond présent comme pas possible. Personne ne peut le stopper, comme dirait Lafune quelques années plus tard. Il est au top niveau, il porte cette équipe. Mais quand même, mine de rien, United fera quand même preuve d'orgueil. Et j'étais quand même assez surpris de les voir quand même réagir.
En fin de match, hein, c'est Louis Saha qui égalise. Saha qui avait déjà marqué contre Arsenal avec Fulham lors de la même saison. La saison est finie pour Manchester. Gilles Christ, c'est en tout cas ce que pense Ferguson qui annonce après ce match. Le titre est pour Arsenal.
Ouais, oui, ils disent qu'effectivement, que c'est une équipe qui est très forte. Et justement, que cette équipe doit gagner justement le championnat. Il y a vraiment beaucoup de détermination dans la façon dont ils ont de jouer les rencontres et que c'est elle qui va être championne. Et donc quand tu vois qu'ils sont dans une série de matchs qui est toujours en cours, hein, là on avait dit donc après 27 matchs c'était ils étaient encore invaincus, ils avaient 67 points. Là maintenant on est à peu près 30 matchs. Là tu te dis bon. Ça, il rentre dans l'histoire du football anglais parce que les équipes qui ont été invaincues sur 30 matchs dans une saison, ce sont des gens du football anglais, que ce soit Leeds ou Liverpool, hein, à différentes époques, il y a rien à dire par rapport à ça. Et il faut affronter. La suite du parcours en Ligue des Champions avec ce match retour et donc là être dans encore une sorte de gestion. Et moi je pense sincèrement que quand tu vois la fin du match contre Manchester United où justement ça marque dans les dernières minutes,
oui.
Tu te dis bon, est-ce que donc c'est vrai qu'il y a l'orgueil de Manchester, mais est-ce que physiquement ils sont frais pour pouvoir tenir le tempo, même si tu vois, ils auraient pu gagner la rencontre. Cette équipe de Manchester est vraiment profite, je pense, d'une baisse de forme d'Arsenal. Moi, je pense qu'elle est naturelle, mais elle est naturelle cette baisse de forme. Mais il faut ménager ses troupes. Ménager sa monture pour pouvoir, on va dire, voyager loin quand le mois d'avril commence.
C'est ce qu'il va faire, hein, Arsène Wenger, au match suivant. On en parle tout de suite. Hein. Arsenal, tu le disais, Gilles Christ, établit un nouveau record de 30 matchs sans défaite depuis le début de la saison après ce match nul contre Manchester United et conserve sa première place dès lors avec 7 points d'avance sur Chelsea à 8 journées de la fin du championnat. Pour ceux qui auraient encore un goût d'inachevé après ce match, eh bien le suivant est une nouvelle confrontation entre Arsenal et Manchester United, mais cette fois-ci en FA Cup. Nous sommes le 3 avril 2004 et c'est jour de demi-finale. Les deux plus grandes équipes de l'histoire de la FA Cup s'apprêtent à en découdre. Au-delà de la place en finale, quel est l'enjeu de cette rencontre, Nams?
Il faut se départager. Il faut que... On a eu deux matchs nuls. Community Shield, confrontation aussi qui s'était terminée au tir au but. Là, il faut un vainqueur. Il faut que quelqu'un gagne dans le jeu. Et malheureusement, ce ne sera pas Arsenal. Perdre en demi-finale, c'est toujours dur. Encore plus face à United. Et là, on se dit que oui, Arsenal fait des choix parce que, avec un effectif où tu as peut-être 15, 16 joueurs, tu peux pas mettre ton équipe type à tous les matchs sans faire souffler certains joueurs. United, lui, est à la ramasse en championnat, donc met quasiment toutes ses forces pour gagner cette Cup, qui est très importante pour les clubs anglais. Chose assez improbable. Giggs qui sent côté droit du pied droit, pour Scholes. Alors, il a un bon pied droit. Hein. Pour un gaucher, il a un très bon pied droit. Mais le voir dans cette position-là, bon, c'est pas là où il est habitué à le voir. Mais Scholes, le meilleur milieu de terrain anglais de l'histoire, ben, sera clutch et qualifiera son équipe. Et bon, pour Arsenal, c'est dur. Mais on se projette déjà sur un match qui sera quand même assez très important et qui peut ouvrir les portes à peut-être à une saison plus qu'historique. Parce que tu te fais éliminer de la FA Cup, c'est douloureux. Parce que quand tu vas en demi-finale, bah, aller jusqu'en demi-finale de la FA Cup, quoi qu'il en soit, c'est très dur. Parce que tu affrontes des petits poussés qui ont les crocs, qui ont le couteau entre les dents. Mm-hmm. Il faut faire des prestations solides. Ce qu'Arsenal a su faire, même face à des équipes de première ligue.
Tout à fait.
Et donc, c'est très dur de se faire éliminer. Malgré tout, c'est très dur. Même si tu as un effectif restreint, ça reste dur. Mais derrière, quand tu te fais éliminer, ça veut dire que tu fais un choix sur la Ligue des Champions. Et là, il ne faut absolument pas se rater. Il ne faut absolument pas se rater. Je ne suis pas supporter d'Arsenal. Mais 20 ans plus tard, ce match du 6 avril, je l'ai encore en travers de la gorge.
On verra pourquoi tu l'as à travers de la gorge. Hein, pour ce match de FA Cup, c'est Henry qui est préservé. C'est le seul gros changement côté Arsenal. Factuellement, je voudrais dire une phrase.
Ça, il rentre en cours de match, hein, je crois.
Oui, il rentre
en cours de match, mais il le débute pas. Mais c'est quand même factuellement très difficile pour Arsenal de battre Manchester United.
Mais c'est en plus, un, que ce soit difficile, Gary Neville avait dit quelque chose de très important avant le début de cette rencontre. C'est le match le plus important de la saison. Ça veut dire que Manchester va mettre toutes ses forces pour pouvoir faire front à son successeur, déjà de 1 en Première Ligue, face à l'équipe qui lui cause le plus de soucis sur le terrain anglais, bien entendu. On connaît également l'antagonisme qu'il y a, l'animosité qu'il y a entre les deux, j'allais dire les deux franchises. Oh là là là, vraiment.
Ah, les deux équipes, ouais.
Ouais, entre les deux équipes, excusez-moi, messieurs. Et je trouve que Manchester a fait preuve d'humilité au cours de cette rencontre. Ils ont été combatifs, comme on le sait bien, c'est vrai, mais je trouve que Manchester a vraiment fait preuve, je dirais, de solidarité pour pouvoir gagner cette rencontre-là, où Arsenal, pour ma part, a montré une certaine usure physique, avec pas mal déjà de 1 des cartons qui sont largement évitables, tels que Robert Pirès, je m'en souviens, qui était assez énervé, Touré, c'était un match vraiment qui était quand même difficile à gérer pour Arsenal, je trouve. Parce que ben, vous affrontez l'équipe majeure, c'est vrai, mais il y a également un programme à gérer en contrepartie. Et je dirais les critiques que nous avons, les réserves que nous avons envers Arsenal par rapport à sa gestion de transfert, ben, se voient au cours de cette période printanière. Il manque des mecs à pouvoir faire front sur plusieurs compétitions, telles que la Cup, où Arsenal, en effet, est double tenant du titre. Donc, cette défaite, psychologiquement, elle est clairement à prendre en considération, sans compter qu'Arsenal n'a pas battu Manchester au cours de cet exercice 2003-2004.
Et ça compte. Non, bien sûr, effectivement. Et surtout que ce match à Villa Park, qui, on va dire, rappelle, on va dire, quelques petits souvenirs quand on se souvient de 99.
Bien sûr.
Justement, de ce match mythique. Et c'est pour ça que j'imagine que Manchester, qui était en noir à Highbury en championnat, ben donc a troqué son noir pour ce maillot blanc qui rappelle justement donc 98-99. Ben donc du coup ben voilà, ils se mettent justement en mode commando pour pouvoir aller sauver sa saison, hein. C'est clair, largué en championnat, éliminé en Ligue des Champions par Porto, là voilà, pour éviter la saison blanche. Eh ben, tu sors, j'allais dire, ben, le blanc de chauffe, effectivement, pour passer le tour suivant. Elle fait peut-être mal, justement, donc, à Arsène Wenger, mais je me dis qu'il y a peut-être un sacrifice qui est fait. De se dire, voilà, j'ai peut-être gagné en 2002, j'ai gagné en 2003.
C'est vrai.
Faire la passe de 3, c'est particulier. Surtout que voilà, maintenant il faut gérer plusieurs compétitions en même temps. Là, c'est vrai que là tu joues 3 compétitions dans la même semaine, hein, donc il faut être solide. Et là, il y a, on va dire, on lâche un peu de lest.
Alors qu'ils étaient éliminés déjà de la Coupe de la Ligue, Arsenal sort également de la FA Cup. Le double tenant du titre ne défendra pas sa couronne en finale, qui se jouera entre Manchester United et le Millwall de Dennis Wise. Deuxième division au Millwall à ce moment-là, Dennis Wise, ancien grand joueur de Chelsea. Arsenal avait sûrement déjà en tête son match contre Chelsea le 6 avril. Highbury reçoit le très ambitieux Chelsea et Claudio Ranieri et ses hommes. Cinquième confrontation entre les deux équipes au cours de cette saison. On sent dès les premières minutes une équipe d'Arsenal très 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 entreprenante d'Amazon.
Absolument. Après déjà de un ce match aller où Arsenal a clairement dominé les débats, je dirais territorialement face à cette équipe de Chelsea qui était quand même vaillante avec un. J'ai envie de donner aussi un petit cas à Frank Lampard qui a fait une passe pied gauche pour le but de Gudjohnsen. Très très bel appel de balle, mais bon ça c'est un petit point. Maintenant concernant ce match retour là, Arsenal l'attaque pied au plancher. Ils veulent faire la différence, c'est évident. Et moi, j'ai envie de mettre un petit point aussi sur Reyes, qui est bien en jambes, qui crée de la cohésion collective avec les autres, notamment avec Pires sur le côté gauche. Mm-hmm. Et quand vous regardez...
Qui a mis Bergkamp sur le banc. Hein.
Qui a mis Bergkamp sur le banc, absolument. Et quand vous regardez composition de départ, choix très, très fort, hein, et même qui va se répertorier même à l'avenir. Mais quand vous regardez la composition de départ, sur l'attaque 4-4-2 classique hein, du Real Madrid, de Arsenal, Reyes joue 9,5 côté gauche. Henry a toujours évolué dans l'attaque à 2 sur la partie flanc gauche-centre, soyons clairs. Mais là, Henry va être placé sur la partie en tant que vrai 9, mais sur le flanc droit-axe. C'est Reyes qui va donc combiner généralement avec Pires au cours de cette première mi-temps. Et Reyes, bien entendu, va bien se faire voir, mais automatiquement, il y a un joueur qu'on attend qui doit faire la décision. C'est Thierry Henry. Et Thierry Henry... Ah là 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 là. Jusqu'à aujourd'hui, nous ne sommes pas contents. Parce que ce qu'il a fait là, concernant ses 15 premières minutes, voire les 20, sont pour moi inacceptables.
Effectivement, le match est loin d'être... terminé malgré cette domination qui est concrétisée par le but de Reyes, Arsenal va se laisser surprendre. Pareil, petite parallèle avec le match aller. Quel match de Gudjohnsen. Nams, si tu l'as à l'esprit, le match de l'Islandais, il est absolument incroyable.
C'est un joueur qui joue avec ses qualités, mais il est bon techniquement. Il sait se battre, il sait se démener. Et en fait, peu importe avec qui il joue, que ce soit Hasselbaink, ou Mutu, ou Crespo, ben, chacun peut profiter de ses qualités et du fait que ben, ce joueur-là peut tourner autour de toi, peut jouer en remise. Et quand t'es un défenseur et que t'as un joueur sur lui comme Do, t'as un joueur comme lui à marquer, ben, ça reste très très compliqué. C'est vraiment très très compliqué. Il a mené la vie dure aux défenseurs d'Arsenal. Et si Chelsea, justement, s'est repris durant ce match-là, il n'y est pas pour rien. Surtout sur le but décisif. Le but qui enverra Chelsea en demi-finale, il y est pour beaucoup.
Tu l'as en tête, Gilles Christ, Gudjohnsen, il est droit comme un piqué, il décale. Enfin, c'est vraiment du très très haut niveau. Hein.
Ah ben justement, après quand on connaît les qualités de Gudjohnsen, j'allais dire que c'est indéniable hein, quand on voit ce qu'il est capable de fournir. Après dire que effectivement donc. Voilà que on parle de haut niveau quand on parle de Gudjohnsen. Quand même, Arsenal est en face. On va dire tient cette équipe de Chelsea dans sa main. Mais comme on peut le voir et le souligner, le surligner, l'entourer, etc. C'est que quand vous êtes en quart de finale de Ligue des Champions et que vous avez, on va dire, un petit espace pour créer une difficulté. À votre adversaire, même s'il a la domination psychologique sur vous, ben vous tentez votre chance à fond. Et c'est ce que fait justement donc Gudjohnsen en termes de service de balle. Hein. Et c'est vrai que quand tu le vois sur le but de la qualif de Wenbridge, c'est l'intelligence qui ressort. C'est ça en fait qui ressort très concrètement. Et qui donne, on va dire, toute sa saveur, sa splendeur justement, donc à cette rencontre. Et j'allais dire, voilà quoi, j'allais dire que le Arsenal n'a que ses yeux pour pleurer. Arsenal a le blues ou le bleu à l'âme, mais c'est le bleu de Chelsea justement qui domine justement donc cette pelouse de Highbury et ce quart de finale de Ligue des Champions où Chelsea sort vainqueur. Et ça, C'est ça qui est, on va dire, incroyable sur un but, un simple but.
Vraiment,
clairement. C'est vrai. Je me disais que après, moi, honnêtement, quand je me souviens de cette rencontre, je me suis dit, parce que dans le temps, il y a une autre rencontre qui m'intéresse un petit peu plus. Et sur le, bon, vous l'aurez bien, vous l'avez deviné pour ceux qui, voilà, qui suivent Esprit Madridista. Je me pose la question d'une chose. Je me dis, il y a 1-1. Lampard a marqué. Ok, très bien. Il y a 1-1. Ils vont aller en prolongation. Et Arsenal va faire la différence en prolongation. Mais c'était, je ne me dis pas que avant la fin du temps réglementaire, que Chelsea l'emporte. Et c'est vrai que c'est la stupéfaction qui m'envahit quand vous voyez cette rencontre où on était censé voir Real Madrid-Arsenal dans le tableau de la demi-finale, qui était le choc attendu, et finalement, vous avez...
Chelsea-Monaco.
Chelsea-Monaco.
Les équipes du FA.
Vous êtes un peu dur quand même avec UEFA par rapport à Chelsea, mais voilà, même avec Monaco, c'est vrai que Monaco revoit l'Europe après, on va dire, des quelques années en enfer.
Non.
Mais non, honnêtement, je suis stupéfait. Ouais. Stupéfait.
Ah, vraiment.
De voir que Arsenal n'a pas gagné ce soir-là. Et surtout, je me pose des questions, mais on ne nous avait pas dit que Arsenal avait l'accent, ne faisait que gagner contre Chelsea, qu'ils étaient plutôt à l'aise contre cette équipe. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comment en Ligue des Champions, normalement, une compétition où, en fait, on se dit que il y avait encore cette... Quand vous regardez l'équipe du dimanche, d'Arène Tulette, etc., que oui, les Anglais privilégient la Première Ligue au détriment de la Ligue des Champions. C'est-à-dire que quand vous dominez en Première Ligue, la Ligue des Champions, ça doit être une formalité quand même pour Arsenal, qui a cette culture européenne, on va dire, qui est un peu plus, à cette époque-là, un peu plus marquée que celle de Chelsea en Ligue des Champions. Et il y a cette défaite. J'allais dire que c'est la première de la saison. La première de la saison, justement, donc dans une compétition majeure. Parce que voilà... Autant les coupes, on peut peut-être se dire qu'on peut les de côté, mais sur la Première Ligue et sur la Ligue des Champions, avoir cette première échec, ça va laisser des traces mentalement, à mon avis. Et ouais, il y a vraiment beaucoup de stupéfaction, c'est le mot qui ressort.
Il n'était pas bon d'être favori hein, dans cette Ligue des Champions avec cette nouvelle formule hein, qu'on commence à peine à connaître. Question toute simple que je vais me permettre de faire en anglais. Damas, where is Thierry Henry?
Très bonne question. Et malheureusement, ça devient quelque chose qui devient assez récurrent par rapport à Thierry Henry, qui est, pour ma part, l'un des premiers responsables, si ce n'est peut-être le premier responsable de cette élimination, pour moi, prématurée d'Arsenal. Pourquoi Thierry Henry n'est pas là? Il va rater deux occasions majeures en première mi-temps qui nous laissent pantois pour nous tous, parce que dès l'époque, déjà, on commençait à se poser des questions. En tout cas, pour ma part, moi, j'avais ce type d'observation. Thierry Henry, il avait une publicité incroyable à l'échelle française, voire à l'échelle anglaise, bien entendu. Et là, c'était le temps de décision auquel, selon moi, il est passé à côté. Il avait 26 ans. Je considérais qu'Henry, ça faisait un petit moment maintenant qu'on le voit à la télé. Donc, tout était réuni face à cette équipe de Chelsea et diffusé, je crois que même c'était sur Sport Plus, hein, je crois, Nams. Hein,
oui, le match n'est pas sur. Voilà, donc le match, lui, n'est pas vu sur.
Sur TF1. Hein.
Sur TF1, effectivement, en gratuit. Hein, tiens, voilà. C'est bizarre.
Voilà, déjà de 1-1, c'est bizarre parce que Lyon est encore qualifié en Coupe d'Europe. Mais
Lyon, pas sur Canal+, c'est Monaco hein, qui a les honneurs
de... Ah oui, Monaco, bah oui, n'importe
de
quoi.
TF1 à l'aller au retour parce que c'est le Real Madrid, bien évidemment, qui fait face hein, justement donc à cette équipe monégasque. Donc oui, ce match est passé dans un troisième plan et c'est pour ça que moi je le suis à la radio.
Ah ouais, en tout cas, je pense que Nams et moi-même, on avait Sport Plus pour pouvoir observer ça.
Vous aviez la chance, oui, effectivement. Moi, j'ai eu Canal Satellite bien après.
Après.
Oui, Sport Plus. Oui,
c'était Sport Plus. Et Dieu sait que quand tu regardes le début de match, tu dis, mais non, mais Arsenal va terminer le travail, va terminer l'affaire. Parce que bien que Chelsea se batte bien, en fait, tu sens que Chelsea se considère même en dessous d'Arsenal. Mais sans compter qu'il y a eu également l'absence de Marcel Desailly pour le match retour. Hein. C'est Gallas et John Terry qui sont en défense centrale pour s'occuper de Reyes et de Thierry Henry. Et malgré ça, il y a une première occasion de Thierry Henry. Il met un tir en dehors de la surface de réparation.
Ah oui, il ne cadre pas.
Oh mon Dieu, comment il c'est son pied droit. Et ensuite, il y a cette passe de Reyes lumineuse où pied gauche, le ballon arrive sur son pied gauche dans la surface de réparation. Cette action vient quelque part démontrer que Ronaldo avait raison au sujet de Thierry Henry. C'est que dans la surface de réparation, aïe, 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 il ne cadre pas. Comment il ne peut pas ne pas cadrer? Franchement, à cause de ça, ça remet quelque part en cause les grosses performances qu'il nous avait faites au cours du mois de novembre face à l'Inter. C'est comme ça qu'on doit penser Thierry Henry. C'est vraiment dommage. Et ce Chelsea-là, emporté bien entendu par la vague de l'été 2003, va sortir clairement grandi pour pouvoir se qualifier en demi-finale de Ligue des Champions. Je vous rappelle qu'il y a deux joueurs que moi j'ai envie de mettre en évidence pour du côté de Chelsea. On a parlé de Gunjansson, c'est vrai, mais c'est John Terry, qui est présent pour cette rencontre, en tant que fils spirituel de Marcel Desailly.
De Marcel Desailly, oui.
Ah, oh, j'insisterai toujours pour le dire, parce que les choses étaient vraiment marquées. Hein. Ah, c'était clairement évident. Hein. Marcel Desailly, c'était vraiment le tonton des tontons. Et t'avais Frank Lampard, qui, lui, égalise. Ah, c'est Frank Lampard qui le fait. Au match aller, déjà, il lui fait une passe exceptionnelle. Et au match retour, c'est lui qui égalise après une énorme boulette de Jens Lehmann.
Pourquoi oui, effectivement.
Wenger est parti prendre ce mec. Moi,
je pose la question à Damaz avant que Reda reprenne la parole. Mais tu veux prendre qui à la place à l'époque? Jens Lehmann, c'est pas quelqu'un qui a manqué à ses obligations cette saison par rapport à la saison 2002-2003 où Arsenal a pris beaucoup de buts quand même.
Il nous a fait déjà plusieurs boulettes, déjà dès l'Allemagne, Gilles. On connaît ce personnage, il n'est pas inconnu au bataillon. C'est vrai qu'en Angleterre, concernant le choix des gardiens, c'est assez délicat. Ça, je te l'accorde complètement, parce que Stuart Taylor n'aurait pas fait l'affaire même face à Wolverhampton. Mais je pense qu'il y avait moyen, Arsenal avait les sous nécessaires pour pouvoir...
Ferguson est parti chercher Tim Howard, il n'y avait pas de gardien disponible.
Il n'y avait pas de gardien, Tim Howard.
Ah ouais, j'avais oublié ce détail aussi. Ah, oh, Seigneur.
Chelsea va prendre Petr Cech, mais c'était un gros pari l'année d'après.
Non, mais parce qu'il est bon avec Rennes aussi. Hein.
Oui, il faut aller le chercher quand même.
Et l'Euro, je crois, c'est l'Euro 2002 ou l'Espoir, l'Euro 2004, où Cech se fait remarquer. Mais c'est vrai que c'est très dur à l'époque d'aller chercher de très bons gardiens. C'est très, très compliqué.
En plus, il prend Jens Lehmann, comme on l'a déjà dit. Il a quasiment l'âge de David Seaman. Hein, donc, c'est vraiment aller chercher le meilleur gardien, le plus expérimenté, disponible et apte à venir dans ce club-là. Je rappelle que du côté de Chelsea, le gardien, c'est Ambrosio hein, sur ce match-là. Donc,
Udicini
et Ambrosio. Donc, vraiment, sur cet aspect-là, les gardiens, ils sont tous bien au chaud dans les clubs et on prenait ce qu'on avait. Et c'était sûrement Lehmann le meilleur des disponibles. Hein. Nams, je vais poser une petite question qui peut fâcher. Arsenal est éliminé de la Ligue des Champions, est éliminé de la FA Cup. Elle est loin devant en Première Ligue. Arsenal, champion de Première Ligue, on a déjà vu. Est-ce qu'on peut parler déjà d'une saison jusqu'à présent, entre guillemets, terminée, lambda, un peu ratée?
Moi, c'est ce que... Là, je vais revenir 20 ans en arrière, c'est un peu ce que j'ai ressenti, c'est-à-dire que oui, ils peuvent être champions, ils sont quasiment déjà champions, mais il y a un goût d'inachevé parce que je regarde le tableau final en Ligue des Champions, je me dis qu'Arsenal a vraiment raté son histoire, a raté un rendez-vous, il y a un rendez-vous manqué avec l'histoire. Et ça, même en n'étant pas pour Arsenal, j'ai eu beaucoup de mal à le digérer, mais vraiment beaucoup de mal. Et c'était pas simple, je pense, pour beaucoup d'entre nous, hein, même si, voilà, il n'y a pas forcément d'affection pour Arsenal, mais tu te dis, non, c'est pas possible. Alors ouais, maintenant, il faut aller prendre ce titre, parce qu'un titre de Première Ligue, ça reste un titre, parce que, vu tout ce qu'a pris Manchester depuis 97, faut quand même prendre, entre guillemets, faut prendre les miettes. Donc, faut prendre le titre, il faut vite se remobiliser, il faut vite... se remettre au travail, se retrousser les manches et être sérieux parce qu'en plus quelques jours plus tard, il y a un match assez match assez important, un match assez prestigieux et je me rappelle que ce match d'ailleurs, c'était joué à 13h. J'avais été en retard à l'école parce que justement, j'avais regardé un peu le match, j'étais externe, j'étais pas demi-pensionnaire. Donc j'avais regardé le match et j'étais arrivé en retard en cours. Mais bon, je regrette pas.
On regrette pas hein, parce que après deux éliminations en coupe en l'espace d'une semaine, Arsenal affronte Liverpool le vendredi saint chez elle chez lui à Highbury, malgré une ouverture du score rapide des Reds par Ipia. Henry, Gilchrist a vite remis les pendules à l'heure. Hein.
Un Thierry Henry qui, d'après même ses propres propos, est complètement vidé hein, de physiquement et complètement cuit. Hein. C'est lui qui le dit. Mais je pense hein, sincèrement, dans l'appréhension de cette rencontre, que si Chelsea est battu par Arsenal, Thierry Henry est préservé sur cette rencontre ici. Mais étant donné que voilà, il y a beaucoup de choses quand même entre guillemets à se faire pardonner et que Thierry Henry ben, donc a aussi cet orgueil du champion et cette déception de ne pas avoir été au bout de cette Ligue des Champions, ben Thierry Henry ben, remet les choses dans l'ordre. Il est dans son jardin d'Highbury, il marque des buts et justement donc il est il montre. Avec, j'allais dire que si physiquement il semble perdre pied justement donc dans la dynamique de la saison sur cette rencontre, ça ne se voit absolument pas, puisque il marque un doublé en une minute,
en peu près. Il dégage trop de puissance.
Ouais, c'est ça. Mais donc c'est-à-dire oui, en gros voilà, je reviens vite et voilà, je remets l'affaire dans le sac pour mon équipe et après derrière je mets le triplé. Mais il y a surtout ce but qui rentre on va dire dans les légendes du football anglais, avec ce but où il passe en revue ben voilà 4-5 joueurs de Liverpool et qui met ça. On va dire Jamie Carragher
posture, en très très mauvaise posture,
j'allais dire en position Jospin.
J'ai regardé ce match Liverpool-Arsenal, messieurs. Je peux vous assurer que j'étais dans une colère parce que j'aimais ce Liverpool-là. Hein. J'aimais beaucoup Michael Owen, Steven Gerrard, tous ces bonhommes-là. Même Harry Kewell, ce transfert m'a vraiment fait beaucoup plaisir en pensant qu'on allait faire quelque chose. Mais Liverpool a trouvé le moyen, comme l'Olympique de Marseille, de perdre face aux trois leaders de Première Ligue à domicile, comme ça a été le cas pour l'homme avec Lyon, Paris et Monaco. Et j'attendais vraiment de ce Liverpool-là qui puisse faire front face à ce Thierry Henry, face à cet Arsenal invaincu en Première Ligue. Et le début du match me fait du bien parce que Ipia ouvre le score et Liverpool fait un bon début de match. Et on sent qu'Arsenal, psychologiquement, était touché par ces différentes éliminations. N'oublions pas qu'Arsenal a été éliminé de deux compétitions en 10 jours. Ouais, moins de 10 jours, je suis ouf, moi.
Même d'une semaine, même.
En 6 jours.
Voilà, regardez ça, ça fait mal. L'ouverture du score d'Ipia vient répondre justement à cette situation où Arsenal est plutôt mal en point. Et après, il y a un homme qui arrive et qui fait clairement la différence, c'est Thierry Henry. Jamie Carragher va oser dire que je faisais des cauchemars de Thierry Henry. C'est un ouf, lui. Comment un mec, il peut t'atteindre autant psychologiquement comme ça? Donc, Thierry Henry crée une telle peur. C'était pas à l'échelle de R9, bien sûr, mais sur le sol anglais, il est indétrônable. Et encore une fois, le fait qu'il y ait une telle légitimité, une telle notoriété, bah, ça se démontre même dans la situation invisible d'XY personne. Et là, on parle de Jamie Carragher qui joue quand même à Liverpool. C'est pas le meilleur défenseur du sol anglais du Royaume, soyons clairs. Mais c'est pas le plus mauvais non plus. Mais, et là, cette action-là, où psychologiquement, tu sens qu'il est perdu. T'as l'impression qu'il affronte un serpent et qu'il recule et en plus il se cogne contre son coéquipier Steve Finan et ça ouvre la brèche à Henry qui vient mettre quatre buts à deux. Ah non, moi j'étais très en colère ce jour-là, mais quand on y réfléchit 20 ans plus tard, on pouvait que s'incliner.
Non, on s'incline parce que voilà, Thierry, mais c'est ce qu'il fallait faire 3 jours avant. C'est aussi clair, net et précis que ça, et je pense que c'est en travers de la gorge de beaucoup. Mais encore une fois, Thierry Henry montre qu'il est un grand champion d'Arsenal, un grand champion d'Highbury, puisque c'est dans ce jardin d'Highbury qu'il fait la différence. Et c'est pour ça que 3 jours auparavant, tu comprends pas pour comment il a pu passer, on va dire, à côté de cette soirée européenne.
Dans les mêmes conditions de d'habitude.
C'est ça. Mais je pense que c'est vraiment physiquement que ça commençait à tirer.
Gérard Rouillet parle d'une bête blessée qu'il était impossible d'arrêter. C'est dans cet état d'esprit qu'Arsenal va continuer le reste de sa saison. Deux jours plus tard, après cette rencontre, Arsenal fait un match nul et vierge contre Newcastle. Et le 16 avril, c'est Leeds qui va être pris au piège. Quelle soirée pour Arsenal, Damaz.
Tout simplement incroyable. Cette soirée-là face à un Leeds, une belle histoire qu'on a eue tout début des années 2000 en Ligue des Champions, qui est en pleine décomposition économique. Rappelons-nous que Leeds est déjà dans une situation à vente forcée et qu'au cours du match aller, Alan Smith a sauvé l'honneur d'une déferlante de londonienne. Les Gunners sont clairement marchés dessus sur le stade Elland Road où Thierry Henry, je crois nous a tout simplement impressionnés jusqu'à Gilberto Silva et Robert Pires. Et sur ce match retour, pratiquement en nuit, hein, je m'en souviens de ce match-là, où il y a un joueur qui va encore une fois nous éclabousser de son talent, c'est Thierry Henry. C'est Thierry Henry qui va marquer dans des configurations tout simplement exceptionnelles, où il est lancé. Et quand Thierry Henry est lancé, qu'il a de l'espace, on peut considérer que c'est presque terminé. Je dis presque parce que on est encore blessé par rapport à ce qui s'est passé début avril 2004. C'est encore dans l'air du temps, justement, cette fissure qu'on a. Et face à Leeds, un Leeds qui est clairement en fin de route.
Oui,
va subir des conséquences fâcheuses avec un penalty d'Henry et avec les actions de but que va mettre Arsenal. Ah, oui. C'est des ouvertures d'espace pour Thierry Henry. Tout est fait pour qu'il aille tout droit, éliminé par un ou deux crochets accélération et se retrouver face au gardien. La messe est dite.
Non, mais c'est dit, oui, bien sûr, pour que ce soit pour la première et pour la relégation, quoi.
Oh là 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 là, exactement. Et Henry va finir avec un quadruplé. Qu'est-ce que vous voulez?
Chelsea ayant perdu de la concentration et de l'énergie après sa qualification en demi-finale de la Ligue des Champions, n'a pas réussi à suivre le rythme en championnat imposé par Arsenal. Les Gunners savaient donc avant leur déplacement à Tottenham qu'un match nul seulement garantissait le titre de champion d'Angleterre, et comme un symbole, c'est sur la pelouse de l'ennemi, Nams.
Oui, très gros match, et en plus, c'est nos Frenchies qui ouvrent le bal, Vira qui ouvre le score d'un très joli but, Pires qui double la mise, être champion chez l'ennemi. Je pense que Tottenham a fait preuve d'orgueil et se disait non, c'est pas possible, ils peuvent être champions s'ils veulent, mais pas chez nous, absolument pas chez nous. Ils ne peuvent pas faire ça chez nous. Et Redknapp réduira le score d'une frappe surpuissante, très jolie frappe. Keane qui égalise en fin de match. Et il y a cette scène où Henry raconte des années plus tard, en gros, hein, un joueur qui de Tottenham qui le nargue en mode ouais, vous avez pas gagné, ouais, j'ai pas quoi. Il dit mais qu'est-ce que tu racontes là, on est champion chez toi là, qu'est-ce que tu me racontes, tu vois. Et Henry dit qu'est-ce que tu racontes, et il va fêter le titre avec les supporters. Et en être, quand t'es supporter d'Arsenal, vivre un tel moment, être champion, pour le moment t'es toujours invaincu, reste quelques matchs, mais t'es champion chez le rival que tu détestes, c'est magique. Alors je sais pas si ça peut gommer cette élimination du 6 avril, mais ça reste un moment très très spécial, très spécial pour les supporters et les joueurs d'Arsenal.
2-0 dès la mi-temps, Arsenal est la meilleure équipe de Première Ligue, j'écris, s'il n'y a pas de débat, c'est un beau champion.
Ouais, c'est un beau champion, et bon, c'est un champion qui mérite, on va dire, légitimement donc, son sacre. Et maintenant, de le gagner chez le rival, avec tout le contentieux qu'il peut y avoir donc, entre ces deux équipes, Thierry Henry qui disait que la semaine il y avait quand même des petites campagnes d'intimidation, parce que il y a quand même il y a 9 jours hein, qui s'écoulent entre le match contre Leeds et le match contre Tottenham, et durant la semaine tu marches dans la rue, les supporters de Tottenham ont dit voilà, on arrive contre vous, on va tout faire pour vous faire chier quoi. Et il y a aussi quand même dans la rue cette effervescence de dire les gars, on peut gagner justement donc au Wartart Lane le titre. Ce serait beau de gagner la rencontre et d'être champion. Et quand on regarde la première mi-temps, j'allais dire la supériorité technique d'Arsenal se fait ressentir. Et on se dirige tout droit vers effectivement ce titre de champion avec une victoire à la clé, ce qui serait humiliant. Il y a 2-2, puisque Tottenham revient, comme disait Nams tout à l'heure. Et c'est vrai qu'on est dans une ambiance où donc les supporters de Tottenham se disent que on est content de ne pas avoir perdu contre cette équipe, de ne pas les avoir laissé gagner. Mais y a ce point, finalement, ce fameux point qui permet à Arsenal, aux joueurs d'Arsenal, de célébrer le titre à White Hart Lane, comme 2 ans auparavant, ils avaient eu l'occasion de célébrer le titre à Old Trafford.
Exact.
Déjà, même dans l'imaginaire aussi, justement, d'Arsenal, dans l'histoire de la Premier League, face à ces rivaux, face à ces plus gros rivaux, ils ont réussi à gagner un titre sur leur terrain. C'est fort. C'est très très fort et c'est quelque chose qui permet donc de pouvoir mettre en exergue ce titre de champion, de le mettre vraiment donc tout haut dans la hiérarchie du football anglais. Et surtout, on se dit qu'on est à la 4e journée, il reste 4 journées et Arsenal est toujours invaincu. Donc il y a quelque chose à aller chercher. Le rêve d'Arsène Wenger dont on parlait pour l'année 2002-2003 quand il a fait le doublé, donc il disait qu'on pouvait être invincible, on est face à ça, et je pense qu'Arsène Wenger, dès ce match d'avril, du 6 avril en Ligue des Champions, dit à ses joueurs qu'il y a la possibilité d'aller chercher un titre en étant invaincu, qu'il faut tout donner pour le faire. Et je pense sincèrement aussi que si Arsenal avait pu se qualifier lors de cette rencontre, honnêtement, peut-être qu'ils auraient perdu le match, peut-être un match, celui contre Newcastle, peut-être même celui contre Tottenham. Mais je pense que le jeu en valait la chandelle et maintenant il reste 4 matchs, un calendrier qui semble plutôt favorable. Et il faut tout donner pour pouvoir, on va dire, tout donner dans le sprint final pour rentrer dans la légende. Mais en tout cas, ça rentre dans la tête de se dire que le mois de mai va être un mois historique, peut-être.
Nams, est-ce que tu penses que se donner le défi de terminer la saison invaincue en étant déjà champion, ça peut faire oublier la débâcle contre Chelsea?
Non, toujours pas, mais c'est quand même quelque chose qui n'est jamais arrivé, donc pourquoi pas? En faisant ça, tu es le premier à le faire et tu es dans l'histoire. Donc pourquoi pas, et ça permet de maintenir tes joueurs concernés par la fin de saison et de ne pas finir la saison en roue libre. Donc c'est quand même un objectif qui est intéressant. Et pas simple, parce que quand il reste autant de matchs, 4 matchs, c'est beaucoup, les clubs contre qui tu vas jouer vont vouloir te faire tomber. Le club qui potentiellement s'offrira ton scalp sera très fier d'avoir réussi à faire cela. Et toi, tu dois un peu rentrer sur le terrain à chaque match comme si tu n'étais pas champion. Donc c'est un beau défi, et ça... C'est pas facile à réaliser.
C'est pas facile à réaliser. Et en plus, tu as parlé des équipes adverses qui auront le couteau entre les dents pour pouvoir abattre en effet ton invincibilité. Mais pour faire la comparaison avec la Ligue des Champions et cette déception, on sait bien qu'il y a 2 paradigmes qui sont différents au-delà du fait que la Ligue des Champions soit supérieure dans notre esprit à nous tous par rapport à un championnat domestique. Cependant, j'estime que ça n'enlève rien à la grande performance qu'a fait Arsenal sur le long de la saison. On connaît la dureté d'un championnat et la longueur que ça impose, physiquement parlant, d'être autant performant sur plusieurs semaines. Donc ça a également sa place en termes de stature, en termes de supériorité, en se disant qu'on a été invaincu sur 8 mois de compétition officielle. Sur tout le royaume, partout où on est parti, personne ne nous a battus. Quiconque est venu chez nous, personne ne nous a battus. Donc c'est vrai, il y a la déception Chelsea, mais je ne pense pas que ça vient entacher justement les effets des Invincibles. C'est même la raison pour laquelle on en parle aujourd'hui.
Malgré un mois d'avril légèrement tourmenté, Arsenal a maintenu un cap, celui de terminer champion de Premier League. Les hommes d'Arsène Wenger peuvent regretter des éliminations cruelles en FA Cup ou en Ligue des Champions, mais peuvent être fiers d'avoir remporté leur 13e trophée de champion d'Angleterre. Mais un défi de taille reste à relever, celui de réaliser une ambition intime du coach français, terminer la saison sans perdre le moindre match. À 4 journées
de la fin du championnat, la saison d'Arsenal commence à peine.
C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content.